Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Et la joie de vivre est un témoignage autobiographique » écrit par Gisèle Pellicot avec la journaliste et romancière Judith Pérignon. Le livre revient sur l'enfance de l'autrice, sa vie de couple, puis sur la révélation des violences sexuelles qu'elle a subies pendant des années dans le cadre de ce qui est devenu l'affaire de Mazan. Plus qu'un simple récit des faits, l'ouvrage s'intéresse à la manière dont une victime peut reprendre la parole, refuser la honte et reconstruire une existence après un traumatisme extrême. Sa portée est à la fois personnelle, judiciaire et politique. Le texte éclaire les effets de l'emprise, les mécanismes du déni et la difficulté de se réapproprier son histoire lorsque celle-ci a été confisquée par la violence. Il s'inscrit ainsi dans la littérature du témoignage, tout en proposant une réflexion plus large sur la dignité, la visibilité des victimes et la possibilité de rester tourné vers la vie. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une autobiographie qui reconstruit une vie avant et après la violence. Le livre ne se limite pas au moment du procès ou à la découverte des crimes. Il prend le temps de raconter l'enfance de Gisèle Pellicot, son origine sociale, sa rencontre avec Dominique Pellicot, la formation du couple et les années où la vie paraît ordinaire. Le choix est essentiel car il évite de réduire l'autrice à son traumatisme. En montrant une trajectoire entière, le récit rappelle qu'une victime n'est pas seulement définie par l'événement qui la brise, mais aussi par tout ce qui l'a précédé et par ce qu'elle tente de préserver ensuite. Cette structure donne au livre une valeur de réappropriation narrative. Raconter sa vie dans son ensemble devient un moyen de reprendre une identité confisquée. Le lecteur comprend ainsi que l'horreur ne surgit pas dans un vide absolu, mais au sein d'une histoire affective, familiale et sociale complexe. Ce cadrage rend le témoignage plus juste et plus intelligible que de simples comptes rendus judiciaires. Deuxièmement, la honte inversée comme geste central du témoignage, l'un des axes les plus forts du livre est la volonté explicite de déplacer la honte. Gisèle Pellicot affirme que les victimes ne doivent pas porter la culpabilité des violences subies et que ce sont les agresseurs qui devraient être jugés par le regard social. Ce renversement n'est pas seulement moral, il est aussi politique. Dans les violences sexuelles, la honte fonctionne souvent comme un mécanisme de silence, d'isolement et d'effacement. En choisissant de parler publiquement, l'autrice refuse cette logique et transforme l'acte de témoigner en geste de résistance. Le livre montre que la parole n'efface pas le traumatisme, mais qu'elle peut empêcher l'intériorisation de la faute. Cette dimension explique pourquoi l'ouvrage dépasse le cadre individuel. Il cherche à modifier les représentations collectives des victimes, à faire comprendre que la pudeur imposée par la société protège souvent plutôt que les survivants. Le texte propose donc une relecture radicale des rapports entre souffrance, culpabilité et dignité. Troisièmement, le procès public comme acte de justice et de visibilité. Le livre accorde une place importante au choix de rendre le procès public. Ce point est central, car il montre que la justice ne concerne pas seulement la sanction pénale, mais aussi la manière dont une société nomme les crimes et reconnaît les victimes. En refusant le huis clos, Gisèle Pellicot a voulu que les violences ne soient pas reléguées dans l'ombre. Le récit souligne la dimension symbolique de cette décision. Ouvrir les portes du tribunal revient à rendre les faits visibles, à empêcher leur effacement et à confronter la société à la réalité des viols. Cette perspective donne au témoignage une portée collective. Il ne s'agit plus seulement de réparer un dommage personnel, mais de faire évoluer le regard social sur les violences sexistes et sexuelles. Le livre éclaire aussi le coût humain d'un tel choix, car exposer son histoire au grand jour suppose d'affronter l'attention médiatique, les débats publics et parfois les suspicions. La force du texte vient précisément de cette tension entre nécessité de dire et violence de l'exposition. Quatrièmement, une écriture de la retenue pour dire l'irreprésentable sans voyeurisme. L'ouvrage est régulièrement salué pour sa sobriété. La collaboration avec Judith Pérignon contribue à une écriture nette, contenue et précise, qui refuse autant le pathos que le sensationnalisme. Ce choix formel est important, car il permet d'aborder des faits d'une extrême brutalité sans les transformer en spectacle. Le livre ne cherche pas à choquer, pour choquer il construit au contraire une distance qui protège la dignité du témoignage et celle de la lectrice ou du lecteur. Cette retenue donne plus de poids au moment de sidération, de mémoire fragmentée ou de reconstruction intérieure. Elle laisse apparaître les mécanismes psychiques du trauma sans les surdramatiser. Sur le plan littéraire, cette sobriété rend le texte plus crédible et plus durable, car il ne dépend pas d'effets de style mais de la justesse du regard. Le lecteur est invité à comprendre plutôt qu'à consommer une histoire tragique. C'est un trait distinctif majeur du livre dans le paysage des récits de victimes médiatisées. En dernier lieu, un récit de reconstruction personnelle après l'effondrement familial, au-delà du crime et du procès. Et la joie de vivre insiste sur ce qui reste à reconstruire les relations familiales, la confiance en soi, l'équilibre affectif et la possibilité même d'un avenir. Le texte montre que la violence ne détruit pas seulement une personne, mais aussi tout un environnement relationnel. Les enfants, le couple, la mémoire d'un passé commun et l'image que l'on avait de sa propre vie sont durablement touchés. C'est pourquoi le livre ne propose pas une guérison simple ou linéaire. Il décrit plutôt une reprise progressive, faite de lucidité, de fatigue, de deuil et de volonté de continuer. Le titre prend ici tout son sens, la joie de vivre n'est pas présentée comme un état naïf, mais comme une conquête fragile après la désintégration. Cette approche donne à l'ouvrage une portée universelle, car il parle aussi de résilience, de liens brisés et de la manière dont une personne peut rester debout sans nier ce qui a été perdu. C'est ce mélange de lucidité et d'élan vital qui distingue fortement le livre. En conclusion, Et la joie de vivre s'adresse d'abord aux lecteurs et lectrices qui cherchent un témoignage sérieux sur les violences sexuelles, l'emprise conjugale et la reconstruction après un traumatisme. Il peut aussi intéresser celles et ceux qui s'interrogent sur la place de la parole publique dans la justice, sur le rôle social d'un procès et sur la manière dont une victime peut reprendre la maîtrise de son récit. Sur le plan intellectuel, le livre offre bien plus qu'un récit d'affaires médiatiques, il montre comment une expérience extrême peut être pensée sans être réduite à la seule souffrance. Sur le plan humain, il apporte un regard rare sur la honte, la dignité et la persistance du lien à la vie malgré l'effondrement. Ce qui le distingue d'autres livres du même genre, c'est son équilibre entre précision factuelle, retenue stylistique et portée collective. Il ne cherche ni l'emphase ni l'indignation facile. Il propose une parole tenue, incarnée et politiquement claire, qui transforme le témoignage individuel en réflexion plus large sur la responsabilité, la visibilité et la place des victimes dans l'espace public. Si vous souhaitez soutenir Gisèle Pellicot, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.